les élixirs floraux, leurs plantes et leur symbolique avec Simone Sarah Chabert.
Journée peut-être un peu longue pour certains d'entre vous. J'avais envie de vous emmener en balade et puis peut-être de vous montrer les plantes comme vous ne les voyez pas souvent. L'idée pour moi était de partager avec vous comment une plante nous donne à lire ce qu'elle soigne. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que si on regarde suffisamment, est-ce que si l'on observe suffisamment, on va avoir une idée de ce que la plante nous raconte, de ce qu'elle peut soigner ? Donc c'est dans ce voyage que je vais vous embarquer. Je me rends compte que par rapport à la durée initiale prévue, j'ai prévu beaucoup de plantes, donc on ne les fera peut-être pas toutes, ne soyez pas frustrés. Peut-être qu'on en reverra au moment des questions, je ne sais pas. Deux choses que je voulais vous demander pour démarrer. Essayez d'oublier un petit peu tous les préjugés que vous avez, en particulier si vous connaissez ces plantes, si vous les avez déjà vues, si vous les connaissez de façon plus botanique, j'allais dire. Essayez de retrouver votre âme d'enfant et de découvrir ce qui se passe au sein de ce végétal. Et puis, on va essayer de voir, indépendamment de l'aspect thérapeutique classique, le lien entre ce message de la plante et le message de l'élixir floral. J'espère qu'on passera un bon moment ensemble. En gros, une petite heure de présentation et une demi-heure pour les questions après. Donc, j'ai une gardienne du temps qui va m'indiquer tout ça. Je lui fais confiance. Pour ça. Moi, je ne vous vois pas trop parce que je suis un peu planquée à côté de mon ordinateur. Et comme il y a du texte, je peux difficilement m'éloigner de l'ordinateur parce qu'il y a du texte dessus aussi. Voilà, donc je vous souhaite un bon voyage avec des végétaux. Nous en avons ici un bel exemplaire que dans ma vie, j'ai coutume à appeler les vertes personnes. Parce que ce sont quelque part des personnes. Donc je voulais remercier les organisateurs de m'avoir confié ce temps de parole, en particulier Patricia, que je connais depuis longtemps. Et moi, j'ai fait le premier salon d'Eva, il y a 30 ans. J'étais là, sous une autre bannière que le laboratoire des élixirs floraux, sous la bannière de peut-être une revue que certains d'entre vous connaissent, qui à l'époque s'appelait L'Impatient. Voilà. Remercie aussi Pascal Millier, la directrice du laboratoire qui est dans cette salle et qui a eu confiance suffisamment en moi pour me confier cette conférence. Et surtout la remercier pour le travail qu'elle continue à faire, de maintenir le laboratoire dans la lignée de ce que Philippe de Roide, son créateur, avait posé, qui n'est pas si simple. Vu la législation européenne qui est en cours, vu les complications qu'on peut avoir avec les fraudes, les demandes, etc. Il y a un gros travail administratif aussi à mettre en place. Et ça n'empêche qu'on arrive heureusement à se retrouver dehors avec les plantes et que ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Et puis vous d'être venu là pour avoir le courage de passer cette fin de soirée avec moi. Vous allez voir sur les photos, il y a pas mal de photos, en bas à droite, souvent, il y a le nom de la personne qui a fait la photo. Une grosse majorité sont de moi, mais quelques-unes m'ont été prêtées par des amies préparatrices d'élixir et aussi par une association que j'aime beaucoup qui s'appelle le Crapaud Arboricole. Vous verrez, c'est une assoce qui vous trouverez sur Internet, qui a une jolie page Facebook et qui fait un très très beau travail de recensement. Ce qui me questionnait au départ, c'était comment les plantes se comportent, comment elles choisissent leur lieu de vie, comment elles décident de leur biotope, pourquoi se mettent-elles en montagne ou auprès d'un lac, pourquoi elles décident de se déplacer quand ça ne leur va pas. Elles n'ont pas des petites jambes, elles n'ont pas des petites pattes, mais n'empêche que il y a certaines plantes qu'on trouve à un endroit, puis l'année d'après, on les trouve ailleurs. Pas très loin, mais un peu plus loin. parfois même très loin pour certaines. Pourquoi elles choisissent d'être dans un endroit ensoleillé ou pas ? Pourquoi, par exemple, le châtaignier, chez nous, dans nos régions, il choisit de se positionner à la draie ? Et pourquoi, par contre, dans le sud de la France, en particulier dans la région de Colobrière, où le châtaignier est un arbre important, puisqu'il a été l'arbre vital de cette région, qui est une région plein sud, méditerranéenne, il choisit de se mettre à Lubac. Qu'est-ce qui fait qu'il choisit de ne pas se mettre au même endroit en fonction des lieux ? Beaucoup, beaucoup de questions comme ça, leurs conditions de vie, pourquoi certaines vivent en altitude, comme une plante miraculeuse, les Edelweiss, sans doute une des plus évoluées aujourd'hui. Comment elles résistent à la salinité au bord de la mer ? Comment elles résistent à l'enneigement si elles ont 3, 4, 5 mois d'enneigement ? Enfin, il faut dire que dans nos périodes aujourd'hui, l'enneigement, c'est peut-être pas le meilleur des critères. Mais voilà, comment elles font avec le temps, avec l'humidité ? Et puis, une autre question, c'est comment se faisait-il que leur matière médicale était différente si on les utilisait en phytothérapie classique, en aromathérapie ou en élixirs floraux quand elles existent dans les trois ? Et qu'est-ce qui faisait qu'il y avait une particularité dans l'élixir floral ? Quelle était cette particularité ? Et ensuite, comment on peut lire, à condition qu'on les regarde pousser du plus petit, mais aussi jusqu'à ce qu'elles meurent ? L'idéal serait même pouvoir voir leurs racines, comment elles s'enracinent dans le sol, c'est-à-dire tout au long de leur vie, essayer de regarder ce qui se passe, comment elles occupent l'espace, quelle forme elles ont, quelle géométrie elles ont, quelle couleur elles ont. Pourquoi certaines dans la nature sont d'une couleur et puis on en trouve à d'autres endroits d'une autre couleur ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut les trouver de différentes couleurs ? Est-ce que c'est dû à l'espèce ? Est-ce que c'est dû au sol ? Est-ce que c'est dû à l'ensoleillement ? Un paquet de questions sont posées à moi. Juste deux mots parce que mon gardien du temps m'a dit de me présenter. Donc en deux mots, moi je marche dans une tradition un peu particulière qui est entre tradition amérindienne et alchimie, bien qu'ayant côtoyé aussi il y a fort longtemps la tradition tibétaine, mais que c'est entre ces deux voies-là que je travaille aujourd'hui. S'il y a plus de questions sur ce sujet-là, j'y répondrai, mais ce n'est pas le but de s'étaler là-dessus. Prenons cet arbre. Vous le connaissez peut-être, le châtaignier. Vous connaissez ça comme arbre ? Je vous en ai parlé un tout petit peu. Hein. Le châtaignier, alors, du châtaignier, on sait son nom latin. On a souvent associé ce nom latin à quelqu'un de chaste. Et on parlait d'une jeune fille chaste, la chaste Néa. Il y a quelque chose qui pourrait sembler virginal dans le châtaignier. Et en tous les cas, dans la fleur, qui l'est complètement. Ensuite, c'est un arbre qui est symbole de virilité chez les Romains, mais aussi chez les Grecs. Et puis, c'est un arbre qui choisit un peu, comme je vous le disais, où il vit. Et qui a été un arbre important pour nous en France, en Europe de l'Ouest, par rapport à la disette, puisqu'il nous a permis de nous alimenter dans des périodes où il n'y avait plus grand-chose à manger en France. Alors, qu'est-ce qui fait que cet arbre, en élixir floral, c'est un arbre qui aide les parfums. La fleur du châtaignier aide les personnes à un moment de vie qui est compliqué, qui est épuisé, épuisant, tant sur le plan physique que sur le plan moral. Alors on peut aller chercher, peut-être dans le côté riche de sa châtaigne, qui nous enrichit par sa nourriture, et qui nous redonne du peps, déjà physique, parce que c'est un fruit assez équilibré et qui est intéressant. À préciser quand même qu'il gagne en digestibilité en étant cuit, hein, plutôt qu'en étant cru. Mais c'est aussi un arbre qui, dans la tradition, nous accompagnait toute la vie. Parce que dans ces zones où on a du châtaignier, ce châtaignier, il servait à faire les berceaux et il servait à faire les cercueils. Il servait à faire les bureaux, mais il servait à faire les tables et les parquets. Il servait à faire les cuillères, différents outils de cuisine. C'était un arbre dont on utilisait beaucoup le bois, indépendamment d'utiliser la châtaigne. C'est un arbre qui est riche en tanins et on l'utilisait à l'époque en Ardèche pour tanner les peaux. Avec une difficulté, c'est que ce tanin, il donne une couleur un peu bleutée. Il faut avoir dans l'idée que le châtaignier donne, par son bois, une couleur bleutée. Ce qu'on ne connaît pas dans le châtaignier en général. À quoi il ressemble ? Imposant. C'est un arbre qui est capable de vivre 1000 ans. Et c'est un arbre qui a des choses à raconter au bout de 1000 ans, parce que tout ce qu'il a vu se passer au-dessous de lui, ça fait de l'histoire. Bach dit de cet arbre que c'est pour ces moments où, chez certaines personnes, l'angoisse, alors je lis Bach, hein, telle qu'elle, l'angoisse devient si forte qu'elle en paraît insupportable, lorsqu'il semble que le corps ou le mental ait atteint l'extrême limite de son endurance et qu'ils doivent maintenant tout abandonner, quand il ne reste apparemment plus rien à envisager que la destruction et l'anéantissement. Je fais un point d'orgue là-dessus. Le châtaignier est un élixir qui concerne les personnes qui ne sont pas suicidaires. C'est-à-dire que si on a un doute sur l'état psychique et moral de la personne, en se disant « le passage à l'acte est proche », ce ne sera pas le châtaignier. Le châtaignier ne passera jamais à l'acte. C'est un besogneux. Il va essayer de remonter la pente. Il va essayer de retravailler pour aller mieux. Il fera tout pour essayer d'aller mieux, même s'il est épuisé. Par contre, si on a un tout petit doute et qu'on se dit que peut-être cette personne-là, elle pourrait faire une bêtise, comme on dit souvent, alors ce n'est pas le châtaignier qui est intéressant, mais le prunier dans les élixirs de Bach. Que se passe-t-il ? Vous voyez la taille, on peut être à 5 là pour faire le tour du tronc et on n'y arrive pas. Hein. Donc c'est des arbres énormes qui ont un volume important. Mais imaginez-vous autre chose, c'est qu'il y a le même volume sous terre. C'est-à-dire que ce qu'on voit dehors, c'est aussi en dessous. Donc en fait, il faudrait pouvoir projeter l'image à l'envers pour vous dire, en dessous, il y a la même chose. Vous voyez cette résistance ? Ces racines pour tenir la route et pour ne pas déraper. Il ne peut pas déraper le châtaignier. Il va constamment reprendre du poil de la bête. Ça va se faire lentement, mais ça se fera. Si l'on regarde de plus près, son écorce de temps en temps se fend. Et des fois même, quand il a pris la foudre, on peut trouver des creux à l'intérieur. Et les gens se cachaient. Donc ils se cachaient peut-être de quelque chose d'eux. Et pour le châtaignier, ce n'est pas toujours facile de reconnaître que ça ne va pas sur le plan psychique. Mais il va vous dire « Oh, je suis fatigué, je suis exténué. En ce moment, j'en peux plus, j'en ai marre. Je bosse trop, je ne dors pas assez, etc. » Souvent, sur le côté psychique, on a aussi la même fatigue. Et quand on voit un individu qui fait quasiment 10 mètres de diamètre avoir cette prestance-là, le redressement, le retour à l'équilibre, le retour intérieur est fort. Mais pas seulement. C'est intéressant aussi de regarder sa fleur. Alors sa fleur, elle est toute petite. Ça paraît être des longs filaments, très fins. Enfin, quand je dis petit, globalement, ça fait à peu près le diamètre de mon doigt quand même. Hein. Assez long. On va dire 20-25 cm. Et on a l'impression, quand le châtaignier est en fleur, d'avoir quasiment un feu d'artifice. On a des petites brindilles blanches qui sortent comme ça et qui remettent du peps et qui remettent de la vie, qui remettent du dynamisme, de la lumière, parce que l'épuisement, ça peut être aussi la noirceur de l'âme. Et cette lumière blanche du châtaignier est importante pour nous rééquilibrer, pour nous redonner confiance. Et puis, il y a une autre chose qui est intéressante aussi sur cette fleur. Par contre, il faut aller la voir de près. Alors, si on a une échelle, c'est facile. Ou alors, il faut trouver un châtaignier qui est dans une pente. Comme ça, sur les branches qui sont en haut de la pente, on peut aller voir les fleurs de près. Et quand on regarde les fleurs de près, là, on a une surprise. On a des petites fleurs qui font des petites boules. Comme ça. Qui sont les fleurs mâles. Et puis, sur le reste de la branche, tout ce qui est tout fin, ce sont les fleurs femelles. Et c'est quand même intéressant de voir que le masculin est là pour porter le féminin, pour aller au-dessus, pour aller plus loin, et pour redonner l'énergie de vie, et pour redonner l'envie de vivre, et le courage, et la force. Voilà pour le châtaignier. petit voyage. On va regarder le hêtre. Alors, c'est un autre arbre, c'est un autre personnage. J'ose dire personnage parce que c'est un personnage, le hêtre. Hein. C'est... Il n'est pas volumineux comme le châtaignier, mais il sait où il va, lui. Il sait ce qu'il veut. Hein. Si on compare les hêtres au châtaignier, le parc de hêtres en France est à peu près de 10% de la surface des arbres. Les châtaigniers, on en serait plutôt à 5-6%. Bien qu'il y ait une reprise, doucement, là, du châtaignier, dans le sud-ouest en particulier. C'est un arbre qui a besoin d'humidité, ce qui n'est pas le cas du châtaignier, il s'en fout, lui, il pousse sur n'importe quel terrain, ça lui va très bien, il se débrouille, il trouve l'eau qu'il lui faut. Mais le hêtre, il a besoin d'avoir un peu d'humidité environnante. Et puis, c'est un bois souple qui est très utilisé. Et il faut savoir que, vraisemblablement, aux alentours des années 1700, la surface de châtaignier était probablement le double, voire le triple de celle-ci. Parce qu'on l'utilisait pour tout. Pour faire des roues de charrue, pour faire des objets, pour faire des bibelots, pour faire des outils, pour faire les manches des bêches, pour faire les manches des râteaux, pour suspendre des choses. Il était utilisé pour tout. J'ai oublié de vous dire, par contre, que le châtaignier, on le fendait en lames, en lattes, et qu'on faisait des paniers avec, des paniers particulièrement légers. Il ne reste plus beaucoup de gens qui savent faire des paniers en lattes de châtaignier aujourd'hui. Mais revenons au hêtre. On l'utilisait pour faire des pinces à linge, pour faire des chaises. Ses branches très jeunes se plient très facilement. Et on faisait ces beaux dossiers arrondis des chaises anciennes. Plein d'ustensiles de cuisine. Et puis il était utilisé dans un domaine qui est important aujourd'hui. Il était utilisé pour faire des instruments de musique et en particulier des violons. Donc pour les passionnés de la musique, on pourra revenir là-dessus si vous le souhaitez. Il faisait les caisses de résonance des violons, les manches en général, les... Je dis manches parce que je ne suis pas musicienne, donc je ne sais pas comment ça dit, peut-être que vous savez. Mais il faisait aussi le bois des archers. Les roues de carrosse, je vous le disais tout à l'heure, plein de choses on faisait avec lui. Donc on a fini par le décimer et aux alentours de la fin du 19e siècle, on estimait qu'il n'y en avait plus que 5%. Aujourd'hui, les hêtraies recommencent à prendre le dessus. Pourquoi ? Pourquoi surutiliser ? Vous avez une idée ? Qu'est-ce qui fait qu'on l'a beaucoup utilisé, à part les outils ? Pour le ? Pour les meubles, entre autres. Mais la principale raison, c'est que c'est le bois de chauffage qui a la meilleure chauffe. C'est-à-dire que c'est le bois qui chauffe le plus. Et c'est bien pour ça, dans les périodes où on a eu des forges, où on a eu des aciéries, où on a eu besoin de chauffer pour fondre du métal et donc avoir des températures élevées, on a utilisé massivement les hêtres. Alors, comment c'est un hêtre ? C'est majestueux. Là, je dédie cette photo à Pascal quand même, parce que celui-là, de hêtre, on le connaît bien, il nous est cher, puisque c'est auprès de lui qu'on fait l'élixir floral. Bach dit du hêtre pour ceux qui éprouvent le besoin de voir plus de bien et de beauté dans tout ce qui nous entoure. Et nous avons besoin de voir plus de bien et de beauté dans ces temps un peu difficiles que nous traversons. Et quoi que, il rajoute, et quoi que le mal puisse prévaloir, je voulais vous voir, mais si, c'est bon, j'arrive à peu près à voir tout le monde. Et quoi que le mal puisse prévaloir beaucoup, savoir discerner l'émergence du bien, ceci afin d'être plus tolérant, plus indulgent, plus compréhensif envers les différents chemins empruntés par chacun. Tout individu ayant droit à l'harmonie et à la luminosité qu'apporte cet arbre. C'est un arbre très particulier, il a un bois très très clair, il a une écorce très lisse, il a quelques ennemis majeurs, mais bon, globalement, c'est un arbre qui s'en sort plutôt bien. Sa fleur est étonnante. On dirait une petite boucle d'oreille, un petit pendant d'oreille, une décoration assez féminine, vous ne trouvez pas ? Donc je remercie Laurence de m'avoir prêté cette photo. Là, vous connaissez le hêtre ? Vous avez déjà vu les feuilles fermées ? on a l'impression que des petites mains sont venues plisser les feuilles avec des plis d'une régularité. C'est impressionnant. Et quand on ouvre la feuille, on a l'impression d'un éventail. Ces striures, cette régularité, cette précision, un côté métronomique peut-être dans cette plante. Sa droiture, son exigence de perfection font aussi les qualités de l'élixir. Ce petit pompon, il tombe, comme je vous le disais, comme une boucle d'oreille. Et quand on le regarde de près, là, il est en partie fleuri. Les fleurs commencent à poindre. Hein, c'est les petites marques roses. Vous arrivez peut-être à voir. Il est en train de fleurir. On a l'impression de quelque chose de très délicat, de très doux. Et puis quand on s'approche, on se rend compte que tout est construit sur la structure du 3. C'est-à-dire que si je prenais à l'intérieur de ces petits pompons, je vais avoir 3 petits sépales comme ça, puis à l'intérieur un petit bouquet de fleurs. Puis quand ces fleurs vont être fanées, je vais avoir un fruit qui a 3 côtés. Et puis à l'intérieur, il y a 3 graines. C'est très intéressant, cette structure par 3, qui porte à une triunité, une forme de trinité, de réalisation. Donc le calice, 3 carpelles, et puis le fruit qu'on appelle la faîne. On disait, si on avait des faînes dans ses poches, on avait de la chance. Certains disaient, faut des marronniers, des fruits de marronnier. Mais les fruits de marronnier, ça soigne, ça porte pas la chance, ça préserve de la maladie. Par contre, la faîne, ça donnait de la chance. C'est intéressant de voir que quelque chose qui fonctionne par 3 donne de la chance. Il y a un auteur qui est intéressant, qui s'appelle Robert Bourdu, peut-être que vous connaissez cet auteur. Il a écrit un petit bouquin qui s'appelle Le Hêtre, chez Actes Sud, et il dit ça. Chaque hêtre est un lieu magique où tout semble être en harmonie. Le hêtre, il a besoin que de ça, d'harmonie, de beauté, de trouver cette harmonie, cette beauté. La fluidité de la lumière, la douceur des vibrations de l'air, la souplesse du sol, la puissance des troncs en font des piliers vivants. On peut s'appuyer dessus, hein. Le hêtre a un charme fantastique. On tente de ne point y succomber, on résiste. On évoque 1000 traîtrises dont il est coutumier. On le sait dominateur, exclusif et jaloux. On peut s'émouvoir aussi de son obstination à cacher sa fragilité. Eh bien, c'est tout ça qu'il faut avoir en esprit quand on prescrit l'élixir de hêtre. Le hêtre, beech en anglais, c'est pour être, c'est pour l'être intérieur. C'est pour exister dans la beauté, l'harmonie de ce que l'on est. Sans exiger la beauté, l'harmonie partout. Mais en allant chercher dans tout ce qui nous entoure, où sont les petites touches de beauté, d'harmonie. Et être capable d'apprécier ça. Alors je vais faire un grand saut quantique là. Je vais vous en passer 2 ou 3 peut-être. Ah si. C'est celui-là dont je voulais vous parler. L'églantier. Tout le monde connaît l'églantier. Vous avez tous vu un églantier. Pourquoi ça s'appelle Rosa Canina, la rose des chiens? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qui fait qu'on l'a appelée comme ça? Les chiens mangent les fruits. Ah, ça pourrait être ça. Non. Alors... Les canides, certains canidés, oui, mangent les fruits de l'églantier parce que c'est gorgé de vitamine C. Et quand ils sont dans la nature, c'est bien d'avoir un peu de vitamine C pour se requinquer. Mais principalement parce que les épines ont la forme des canines des chiens. Quand on regarde l'épine, c'est une épine qui est recourbée comme la canine d'un chien. Et par théorie de signature, on estimait que cet arbre soigner une maladie donnée par les chiens, la rage. Et on a longtemps utilisé l'églantier pour soigner la rage. Mais pas parce qu'on savait les produits chimiques qu'il y avait dedans. On les a découverts que bien plus tard. Mais simplement parce qu'on avait vu que sur cette tige, il y avait quelque chose qui ressemblait à une dent de chien. Donc c'est une plante importante, une fleur qui est très utilisée, une feuille qui est utilisée aussi. Je vous ai mis tonique, cicatrisante, laxative, mais on pourrait, en phytothérapie, aller bien plus loin. Hein. L'églantier à lui seul pourrait être 3 conférences au moins. C'est une plante médicinale qui a toujours été utilisée, c'est-à-dire si on remonte à Pline l'Ancien, aux anciennes écoles, il a toujours été là. Et puis, c'est l'ancêtre de toutes les roses. Alors, moi, je suis de Grenoble, je ne suis pas de Lyon, mais à Grenoble, le blason de Grenoble, c'est un blason qui est jaune, avec 3 roses rouges, 3 églantines rouges dessus. Donc c'est un blason qui nous parle bien de nos églantiers de chez nous. On en a beaucoup d'ailleurs. L'élixir floral. Alors c'est étrange ce que Bach dit de l'élixir floral. Il dit pour ceux qui sans raison apparente, et ça c'est important, sans raison suffisante, se résignent à tout ce qui peut leur arriver. Ils se contentent de glisser dans la vie, la prennent comme elle est, sans aucun effort pour améliorer les choses, et trouver quelques joies de vivre. Ils ont renoncé à se plaindre et à lutter pour la vie. Alors, quand on écoute ce que dit Bach, et puis ce que dit Julian Barnard dit, mais c'est pas des gens qui sont dépressifs. Eh bien, si, bizarrement. Pour au bout de 30 ans prescrire des élixirs floraux, l'églantier, c'est ce qu'on appellerait la dépression masquée. C'est des gens qui ne veulent pas reconnaître que vraiment ça ne va pas. Qui ont beaucoup de mal à reconnaître que vraiment ça ne va pas. Et quand on regarde la fleur et qu'elle vient juste de s'ouvrir, elle est toute fripée. Comme si elle avait tout été secouée, comme si on avait pris la personne et que cette personne-là, on l'avait pliée comme un papier tout fripé. Et puis, avec le temps, arrivée à maturité, la fleur se défripe, devient quasiment soyeuse à l'intérieur. Le pétale est presque rosé sur l'extérieur. Et on a quelqu'un qui devient lisse, qui devient vivant. Et puis, tout le cœur va ressortir. Donc, on voit bien le cœur au centre. Et quand on s'approche de la fleur, bien évidemment que ça, méditer 10 minutes devant ça, si ça ne vous donne pas la pêche et le moral, on retrouve vraiment une envie. D'abord, ça sent délicatement bon dès qu'on s'approche. Ça n'a pas une odeur de rose, des grandes roses, mais ça a une odeur très délicate, très prenante. Autant la feuille aussi, d'ailleurs, a une odeur. Ce n'est pas seulement l'élixir de la résignation, c'est l'élixir de l'accomplissement de soi. Je pense que l'églantier a cette grande qualité de nous ramener la joie et le bonheur auxquels nous avons tous accès, dont nous avons tous besoin. Mais qualitativement, le bonheur dont j'ai besoin n'est pas forcément celui dont vous avez besoin. Et il est capable d'aller apporter ça à chacun d'entre nous. D'apporter une qualité de fraîcheur, de dynamisme, de gaieté et de partager cette gaieté. Ça va ? Le bruit extérieur vous gêne pas trop ? Moi, un peu. Donc, je comprends pour vous. On va passer la mimule, mais si vous voulez, on y reviendra. Et là, je vais vous parler des élixirs de Bach, d'Eva. C'est-à-dire des élixirs qui ont été conçus à Autran, par l'équipe. Donc je vais vous parler d'élixirs qui sont anciens et d'autres plus récents. Le sureau fait partie des élixirs, je dirais, qui ont une petite dizaine d'années dans le laboratoire. Alors, le laboratoire a 30 ans cette année, comme primaire. Hein. Donc c'est un petit jeune pour le labo, encore. Vous connaissez le sureau ? Vous avez déjà rencontré cet arbre ? Sans bucus nigra. Alors, je vous expliquerai un petit peu ce que sambucus veut dire. On utilisait ces feuilles en cataplasme. On faisait plein de choses avec ces fleurs, des élixirs floraux, bien sûr, mais des vins, des beignets aussi. Vous avez déjà mangé des beignets de fleurs sureau ? Ah, essayez, c'est divin, vraiment divin. Je vous donnerai la recette pour ceux qui ont envie. C'était un grand sudorifique, donc ça permettait de soigner les rhumes, ça permettait de sortir. Le sureau, il fait tout ce qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Il amène à extérioriser les choses. Il a une spécificité dans la sphère ORL, mais il a aussi une particularité, c'est qu'il pousse en vrac, en désordre. On a l'impression que les feuilles sont dans tous les sens, que rien n'est rangé. Alors, autant le hêtre, hein, je vous garantis que tout est bien rangé. Hein. Ça, il n'y a pas à faire. Mais alors, quand on voit un sureau, il est déséquilibré d'un côté, il est un peu rond dessus, il a trois tiges qui sortent. On a l'impression que comme ça, il ressemble à rien. On aura envie un peu de le tailler, quoi, de lui donner une forme. Mais si on le laisse pousser spontanément, il n'a pas de forme. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les fleurs viennent faire un équilibre au-dessus de ces feuilles qui sont en vrac par de grandes ombelles qui font quasiment 20 cm de diamètre et qui sont toutes de même niveau, très régulières, comme si les fleurs venaient mettre de l'ordre. C'est impressionnant quand même. Ça peut être très grand par rapport à la maison. Les fleurs, là, sont toutes à l'extérieur. On ne voit plus les feuilles. C'est-à-dire que les feuilles poussent dans n'importe quel sens et puis les fleurs, à un moment, posent une harmonie générale sur la plante. Donc ce fouillis de verdure, cette imperfection de verdure, ça va tout à fait dans le sens de moments très troublés dans la vie que propose de soulager cet élixir floral. Pour ramener à quelque chose de plus équilibré, pour donner une ombelle, c'est-à-dire une protection, une forme de chose qui, sous laquelle on peut s'abriter et qui va en tous les cas ramener de la lumière. Vous voyez ici, on a une zone qui est très verte par rapport aux ombelles qui sont très blanches. Et sambucus, en grec, ça veut dire la flûte. Vous avez jamais fait des sifflets dans des branches de sureau? On peut faire des flûtes et des sifflets. Ce qui est très intéressant, c'est que certains alchimistes utilisent les branches de sureau pour faire ce qu'on appelle un bâton de pouvoir, un bâton tonnerre, diraient les Indiens d'Amérique du Nord. La plante est très aérienne parce que quand on va à l'intérieur d'un sureau, on voit une masse extérieure, mais à l'intérieur, il y a plein d'air. Il n'y a pas tant d'espace que ça qui est occupé. Le sureau, il redonne cet espace à la personne. Il lui redonne la possibilité de ne plus être dans des contraintes, de ne plus être limité par l'extérieur. Bon, on fait plein de choses avec les feuilles, vous le savez peut-être. On fait du purin pour le mildiou, par exemple. On sait aussi que ça repousse tous les rongeurs. Alors, c'est un peu compliqué d'utiliser l'ascenseur. Voilà. Ça repousse les rongeurs et qu'on dit souvent, dans l'élixir floral, ça a aussi la capacité de repousser, de mettre à distance les difficultés. Après cette fleur toute blanche, il vient un fruit tout noir qui retombe vers la terre. Et il y a quelque chose dans la fleur qui éloigne la noirceur de la vie, qui met à distance, qui essaye d'amener quelque chose qui va dans un sens de perfection, d'amélioration de soi, de donner le meilleur de soi. Alors, quand on regarde l'ombelle de plus près, ça ne prend pas... Voilà. Voilà ce qu'elle donne. Il suffit d'une ombelle. Hein. Alors ça, c'est pas un grand cristallisoire comme... On le fait, Pascal, rassure-toi, hein, ça c'était juste pour une démo, c'est pas un cristallisoire du laboratoire. Là, on a un petit bol qui fait 10 cm de diamètre, on travaille avec des bols plus grands. Mais quand même, on fait pas mal d'élixir avec ça. Il suffit d'une ombelle, le problème c'est qu'on n'arrive pas à la faire toute rentrer dans le bol. Donc il faut la contraindre un peu pour qu'elle arrive à toute rentrer dans le bol. On ne sépare pas les fleurs, on met l'ombelle entière. Il redonne l'envie de vivre. Il redonne le pouvoir de prendre sa vie en main. Pour les gens qui sont éparpillés, qui n'ont pas de ligne directrice, qui ne savent pas où aller, il permet de ne pas céder aux influences des autres. « Ouais, tu devrais faire ça, ça serait bien, ça c'est mieux pour toi, etc. » En tous les cas, si quelqu'un sait mieux que vous ce qui est mieux pour vous, changez d'amis ou changez de trottoir. Hein. C'est aussi, je pense, et c'est un élixir, il faudrait qu'on le travaille dans ce sens-là, pour le voir devenir vert, puis devenir blanc, puis devenir noir dans la vie de cet arbre, je pense que ça peut être un grand élixir d'accompagnement de fin de vie. Aujourd'hui, on ne l'a pas travaillé dans ce sens, mais je pense qu'à terme, par cette théorie de signature, par ce qu'il nous montre, par cette noirceur qui arrive sur la fin, il pourrait être aussi un accompagnement de fin de vie. Si vous avez un sureau chez vous et qu'un jour vous vouliez le tailler ou le couper, le faire disparaître, sachez une chose, c'est que c'est un des arbres qui abrite le plus de dévas de la nature. Donc avant de le couper, prévenez-le 8 jours avant, que tout le monde ait le temps de déménager, d'aller dans un autre arbre, de façon à ne pas le léser. Et vous verrez, quelque part, il manquera dans le paysage près de chez vous. Une autre incontournable. Alors celle-là, je la dédie à quelqu'un qui est dans la salle, qui le connaît bien, cet élixir, qui est addict. Le cœur de Marie. On va au cœur des choses avec ça, hein, je peux vous garantir. Vous connaissez le cœur de Marie ? Vous savez comment c'est, la tronche que ça a ? Vous avez déjà vu ? La nature le propose en blanc et en rose. Il y a les deux versions. Bon, pour la version rose, il faut attendre un peu plus pour la livraison, mais c'est faisable. C'est une plante qui a longtemps été utilisée en décoration, enfin, qui l'est aujourd'hui, mais qui, dans l'histoire, était dans ce cercle des jardins médiévaux. Ces jardins médiévaux qui étaient en carré et qui avaient un cercle au centre. Vous savez pourquoi il y avait un carré et un cercle ? Le carré, ça représente la terre. Le cercle, ça représente le ciel. Ce cercle-là, on y mettait les plantes dédiées à Marie, à la Vierge. Donc il y avait le cœur de Marie, mais il y avait aussi le lys de la Madone. Il y avait aussi l'angélique archangélique dans ce cercle-là. Globalement, en phytothérapie, on le trouve peu utilisé. Il y a une raison à ça. Il fait partie d'une famille qui s'appelle les renonculacées et qui a longtemps été considérée comme une famille de plantes toxiques, dans lequel il y a, pour info, l'aconite. Mais toutes les plantes de cette famille ne le sont pas. Loin s'en faut, et en particulier leurs fleurs. Alors découvrons le cœur de Marie. 2 pétales roses, séparés par une petite pendeloque blanche. Mais la nature les fait avec 2 pétales blancs séparés par une petite pendeloque blanche. Et c'est celui-là qui était destiné à Marie, la pureté du blanc. Alors qu'est-ce qui fait que cet élixir est le principal élixir du deuil, de la séparation? Est-ce que vous avez une idée? Quand votre cœur est brisé, qu'est-ce qui se passe? Vous imaginez ce que c'est, un cœur brisé? Ça vous est jamais arrivé? Personne! Vous avez jamais eu le cœur brisé? C'est pas possible. J'y crois pas. Ça se détache en 2 morceaux, hein? Quand l'autre s'en va, il emporte un peu de vous avec lui, hein ? Non ? Mais il ne devrait pas emporter un peu de vous avec lui. Vous devriez garder votre intégrité. Eh bien, c'est étrange, mais ce cœur, il va se fendre en 2. Et quand il va se faner, chaque partie, chacune des 2 parties, va tomber séparée de l'autre, au sol. Il va rester comme ça pendant toute la floraison, mais quand il fane, il se sépare en 2. Quand c'est fini, chacun reprend ses billes. C'est ça qui nous dit cet élixir. Alors oui, c'est un élixir des deuils sentimentaux, mais pas que. Parce que imaginez-vous quitter une maison que vous aimez bien, quitter une région que vous aimez bien, quitter des amis que vous aimez bien, quitter un métier que vous aimez bien. Ben, ça aussi, ça fend le cœur. Il y a tellement de choses qui nous fendent le cœur et qui font que les pathologies cardiaques sont les premières pathologies des Occidentaux. Peut-être que le cœur de Marie peut être une aide à ce moment-là. Alors on fait un bel élixir. c'est une plante avec laquelle il est bien de méditer, parce que on est tous dans des situations où on est attaché. Je vais vous décrire un truc que vous allez connaître. Enfin, certains, peut-être, vous reconnaîtrez pas vous, mais vous reconnaîtrez des gens proches de vous. Vous savez, quand on dit... J'ai eu ça dans en cabinet il n'y a pas très longtemps. Une mère qui dit à son enfant, avant de sortir, « Mets ton bonnet, j'ai froid à la tête. » Vous voyez la difficulté de séparer l'enfant de la mère, de trouver la bonne distance entre soi et l'autre. C'est ça aussi qui permet le cœur de Marie, de ne pas être dans la possession de l'autre, de trouver le bon lien à l'autre, le juste lien, pas dans la dépendance, mais dans le respect. Peut-être aussi un peu dans l'admiration, parce que quand même, elle est belle cette fleur, non ? Vous ne trouvez pas ? Ça nous fait quelque chose au cœur quand on la voit. Hein ? Donc c'est un élixir de deuil, mais c'est aussi un élixir qui permet au sein de la famille, et il entre d'ailleurs dans la composition de deux composés floraux. Il entre dans la composition du composé vie affective et sexualité, et il entre dans la composition d'unité familiale. Et dans ces deux élixirs, il est bien question de plusieurs personnes. Dans la sexualité, qui je suis si je me perds chez l'autre ou je me perds dans l'autre ? Dans la vie affective, qui je suis si je dis ma femme, mon enfant, comme je dis ma voiture ? C'est monstrueux. C'est pas permettre à l'autre d'exister pour ce qu'il est. Et c'est ça que donne le cœur de Marie, le respect de l'autre. Et en même temps, comme l'autre est différent de moi, le jour où l'autre partira, toute ma vie ne partira pas avec. Je garderai ma part. D'accord ? Je vois des yeux dubitatifs. Le millepertuis. Il me reste 5 minutes. Je regarde la montre. D'accord. 15 minutes. Ok. On va faire vite. J'en ai prévu plein d'autres, hein. Le millepertuis, sans doute une plante qui vous intéresse. Alors, on sait plein de choses sur le millepertuis, je pourrais vous les lire là, mais globalement, ce qui est intéressant, en homéopathie par exemple, c'est que ça soigne les problèmes d'ulcères perforés, puisque son nom c'est Hypericum perforatum, que ça soigne aussi les problèmes de séquelles nerveuses, en particulier tout ce qui est traumatique ou dû aux zonas. Ça soigne la dépression, puisqu'aujourd'hui on a découvert que ça soignait la dépression. Mais en élixir floral aussi, ça peut aider les gens à passer cette noirceur de l'âme, parce que c'est comme ça que certains appellent la dépression, un temps de noirceur de l'âme. Alors, je ne vais pas vous parler de la phyto, ça sera trop long, mais imaginons une plante qui pousse au cœur de l'été, au moment où le soleil est le plus puissant et le plus fort, qui va avoir cette capacité d'accumuler l'énergie du soleil et de la restituer dans l'individu. Je prends une lumière quelque part et je la mets à l'intérieur d'un corps. Si là, je n'éclaire pas quelque chose, si là, je ne dis pas à l'autre, mais tu as aussi ta lumière personnelle, même si la vie est noire, à l'intérieur de toi, il y a une flamme qui vit. Je vais apporter quelque chose de puissant avec l'élixir. Alors, regardons la fleur de plus près. Elle a des pétales très ouverts et elle a des étamines qui font un petit bouquet comme ça. On a l'impression que les étamines canalisent le soleil. Ok ? Elles en font quoi ? Regardons plus loin. La fleur de face. Est-ce que quelque chose vous marque dans cette fleur, dans la forme ? Il y a une chose très particulière. Elle a 5 pétales. Mais ces pétales ne sont pas symétriques. Ces pétales sont droits sur un côté et ces pétales sont très courbés sur l'autre, mais sont toujours très courbés sur le même côté. Et quand on regarde, on a l'impression d'une petite turbine. Ben oui, mais à partir du moment où les étamines ont pris l'énergie du soleil et que la plante la turbine pour la retenir à l'intérieur, il est bien évident qu'en restitution à l'intérieur du corps, elle va faire la même chose et qu'elle va pouvoir pallier à cette noirceur de l'âme. D'accord ? On en prend une autre ? Encore une ?
Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous prendre ?
Ah, on va passer celle-ci aussi. on va passer celle-là. Et je vais vous parler de celle-ci. Je vous la montre. Je vous dis pas toute la phyto, c'est pas la peine. C'est une plante très utilisée en médecine traditionnelle chinoise pour équilibrer le foie. Mais en médecine chinoise, le foie et les yeux sont couplés. Le fraise, vous connaissez ça ? C'est tout petit. Ça fait une fleur de 2 mm. Quasiment pas visible. Puis il faut vous pencher pour aller la voir. Hein. C'est haut comme ça. Ça pousse à 1700 mètres d'altitude. Il faut un peu grimper. Ça aime bien les prairies. Alors, qu'est-ce qu'elle soigne, cette plante ? C'est compliqué à dire comme ça parce que c'est une plante qui n'est pas si simple. Elle exerce notre qualité de voir, notre vision. Les anciens l'appelaient le casse-lunette. Ce qui déjà veut dire son nom, hein. Mais pas seulement la vision des yeux, mais la vision d'autre chose, de quelque chose de plus subtil. Certains appellent ça la vision éthérique. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle peut aider les yeux à mieux voir ? Regardons-la de plus près. Il y a un conte de création qui dit « Elle est faite de deux pétales soudés qui donnent un casque de guerrier. » Ce côté combatif. Et puis aussi, en bas, elle a trois pétales soudés qui font comme un jupon de jeune fille, tout blanc, sur lequel traîneraient des rubans violets. Vous les voyez, les rubans violets ? Ils sont très fins, hein ? Bon Dieu les a dessinés avec un pinceau à un poil, hein ? Mais ce qui fait qu'elle donne de la vue, c'est que le soleil, traditionnellement très lié aux yeux et au cœur, a posé un œil en son cœur. Cette petite tache jaune en forme d'œil. Et c'est ça qui fait qu'elle redonne de la vue. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé le casse-lunette. Alors si on médite devant la fleur et qu'on regarde bien l'intérieur, cette partie qui est interne à la fleur, au bout d'un moment, on a l'impression qu'on y voit un œil qui nous regarde. Mais je vous laisse faire l'expérience. Vous vous sentirez au bout d'un moment observé par la fleur. On a encore un peu de temps ou on s'arrête ? E-U-P-H-R-A-I-S-E. Je vous en prie. Des fois, quand on regarde les plantes, elles nous disent ce qu'elles peuvent faire. Il suffit de regarder comment on peut prier, par exemple. Il y a des plantes qui nous le disent. Alors, on va peut-être prendre celui-là et le lotus, et peut-être la rose verte rapidement. Ils travaillent tous sur les émotions, le nénuphar et le lotus. Qu'est-ce qui fait qu'ils travaillent sur les émotions ? Le nénuphar, il est capable de sortir une tige sur 2 mètres d'eau pour faire une fleur posée sur l'eau, pour faire une feuille posée sur l'eau. C'est-à-dire qu'avec un gros rhizome, qui est à peu près de la taille du micro, un peu granuleux, il va pouvoir vivre quasiment sans terre. Il n'a pas besoin de terre, il fait des racines, mais il n'a pas besoin de terre, ses racines sont dans l'eau, pour pouvoir pousser cette fleur. Alors quand on sait que l'eau est liée aux émotions, quand on sait que les racines sont liées au passé, à la généalogie, à l'histoire familiale, on se dit quand même, quand on a une histoire transgénérationnelle un peu cognée, ce qui est le cas quand même d'une majorité d'entre nous, vu les dernières guerres et vu ce qui a imprégné nos parents et nos grands-parents, eh bien avoir une fleur comme ça qui permet de sortir de l'eau et être à la surface, c'est pas mal quand même. Pouvoir prendre un petit peu de la hauteur et pas être baigné dans les émotions tout le temps. Elle est intéressante, elle est en partie blanche, liée à la lune, avec un cœur jaune lié au soleil, la lune la mère, le soleil le père. Donc elle nous remet vraiment en lien avec la lignée. Et c'est un élixir qui est très très intéressant quand on travaille sur le plan transgénérationnel. ou quand on travaille la symbolique de la pathologie qu'on a, si elle est liée à une histoire familiale. C'est un élixir qui aide beaucoup. Quelle différence entre ce lotus, entre ce nénuphar, dont vous voyez l'intérieur de la fleur là. Alors, pour revenir, tiens, cette fleur là, on ferait l'élixir avec. Regardez bien les étamines à l'intérieur, elles sont jaunes uniformes. Cette fleur là, on ne ferait pas l'élixir avec, parce que des étamines sont en train de sécher. Elle est trop mature pour faire un élixir. On a aussi cette qualité de maturité pour que la plante nous donne le meilleur d'elle-même quand on fait l'élixir. Nénuphar, 2 mètres de tige, posée sur l'eau, fleurs et feuilles. Lotus, 2,40 mètres de tige, feuilles et fleurs, 75 cm au-dessus de la surface de l'eau. C'est-à-dire que les émotions, vous voyez, je prends de l'altitude. Je m'élève, ça ne me touche plus. D'ailleurs, j'ai tout fait comme plante. Je parle de jeu en étant le nénuphar. J'espère que vous avez compris. Je fais une identification des fois. Un, sa feuille est hydrofuge. Tout le dessous de sa feuille ne capte pas l'eau. Même si elle retombait sur l'eau, elle ne serait pas mouillée. Ça, c'est une chose intéressante. Mais elle a aussi une qualité que n'a pas le nénuphar. Étant donné qu'elle s'élève au-dessus des choses, c'est devenu, en gros, le symbole de l'évolution spirituelle. Et c'est pour ça que c'est la plante symbole de l'Inde. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'elle est capable d'augmenter sa chaleur. Il n'y a pas tant de plantes que ça non plus qui sont capables d'augmenter leur chaleur interne. Pourquoi ? Parce qu'en période de pollinisation, pour pouvoir attirer les bons pollinisateurs, il faut qu'elle soit la température des pollinisateurs. Et bien, elle sait faire ça. Elle sait monter sa chaleur de 2 à 4 degrés. C'est quand même fort pour une plante qui vit dans le froid de l'eau. C'est vraiment la plante de l'évolution spirituelle, de la volonté qui s'enflamme pour monter vers la lumière, pour s'extraire de la terre, pour s'extraire de l'eau, pour être dans l'air et donner le meilleur d'elle-même au ciel. D'accord ? Et puis la petite dernière, mais ça c'est pour le plaisir, ça ne va pas être le lys candide, ça va être celle-ci. Est-ce que vous connaissez ça ? Est-ce que vous avez déjà vu ? C'est une plante expérimentale dans les élixirs floraux, mais elle existe dans un composé floral. Et je dirais même que dans ce composé floral, qui est le numéro 15 et qui s'appelle Courage, c'est la plante fédératrice du composé. Regardez bien, ça ressemble à quoi ? Vous avez une idée ? C'est bizarre, hein ? Comme ça, on dirait que ça ressemble à rien. Hein ? Non ? Vous trouvez pas ? Non. Cherchez pas le nom de la fleur. C'est pas une joubarbe, cherchez pas. Mais c'est vert, donc ça ressemble pas à une fleur. Une fleur, c'est pas vert. Enfin, c'est rarement vert. C'est vert avec, de temps en temps, vous allez le voir, des petites pointes de bordeaux, mais comme ça, léger, 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 hein, pas trop. Alors, je vais vous la montrer de près. Peut-être que ça va vous dire qui c'est. Est-ce que vous avez une idée ? C'est la rose verte. Rosa viridiflora. Faut quand même être gonflé pour s'appeler rose et avoir cette tronche. Hein. Vous vous rendez compte ? La reine des fleurs. Faut quand même avoir un sacré courage pour se présenter comme ça, parmi des roses qui ont des noms, qui ont des parfums, qui ont des formes fantastiques, et être une rose comme ça, c'est quand même étrange, hein ? Vous ne trouvez pas ? Eh bien, ce courage, elle le porte en elle et c'est ça qu'elle restitue dans l'individu. Et elle ne le restitue pas n'importe comment. Étant donné qu'elle est de couleur verte, elle le restitue par le chakra du cœur, par la voie du cœur, par la voie la plus juste, par la voie qui touche au cœur des gens. Voilà, j'espère, moi, que je vous ai touché. Je pourrais vous en parler encore toute la soirée. Je vous remercie en tous les cas. d'avoir écouté.
Alors, bonsoir à tous. Merci Simone Sarah Chabert pour votre présentation, très riche, très illustrée. Suite à cette présentation, on vous propose de faire tourner le micro si vous avez des questions, et puis sinon on continuera peut-être sur quelques illustrations. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ?
Je viens plus près de vous s'il faut que je vous en dessine au tableau. Suivant les exemples que vous prenez, j'ai pas forcément toutes les fleurs, mais je peux vous les dessiner si vous voulez. Si vous avez des questions.
Oui.
Alors, je ne pourrais pas forcément vous expliquer toutes les fleurs. Hein. Mais bon, je ferai de mon mieux.
Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur l'achillée ?
La rose verte. Oui,
l'achillée.
Elle sert à quoi ? C'est la fleur du courage. C'est une fleur qui aide au courage, la rose verte. Il faut être très courageux pour être une rose et pas avoir la tronche d'une rose. Ah, c'est rare. Vous pouvez venir chez moi, il y en a, c'est pas un problème. Oui ?
Oui, est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur l'achillée ? Je l'ai vu passer en photo.
Vous avez vu passer l'achillée en photo ? Ah ! Alors, elle est liée à Achille, l'achillée. Elle a une particularité quand même. Il faut que je prenne mes... Ça s'ouvre comme ça. Regardez. Hop. C'est de quelle famille botanique ? Vous avez une idée ? Non ? Alors, c'est une plante intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle est à cheval entre deux familles. Enfin, elle est d'une famille, bien sûr, mais elle a les caractéristiques de deux familles. D'abord, parce que ça fait quelque chose comme ça. Puis qu'on trouve, ça se réunit sur une tige. Alors, sur cette tige, on a une feuille qui est très, très découpée. C'est pour ça qu'on l'appelle millefolium, parce que la feuille a plein de petites sous-feuilles, en quelque sorte. D'accord ? Et puis ici, on a des fleurs. Donc on a l'impression que c'est une ombelle, sous-entendu une ombellifère. Ben non, parce que ça, en botanique, ça ne s'appelle pas une ombelle. Une ombelle, ça part tout du même endroit, comme un parapluie. Ça, ça ne part pas tout du même endroit. Ça s'appelle un corymbe. Donc c'est déjà pas une ombelle, mais ça y ressemble. Donc c'est un peu les qualités du parapluie qui protège. D'accord ? Là, on a un joli parapluie quand même. Hein. Si je ne vous ai pas montré les photos, mais vous verriez des photos d'Achille rose qui peuvent faire 10 cm de diamètre. Hein. Donc une souris dessous, elle peut sévèrement s'abriter, hein, sans problème. Ensuite, si je prends une fleur de là, je vais avoir un personnage qui va faire un petit cœur comme ça. Cinq petits cœurs. Cinq fois cordial, comme on dit. Et puis à l'intérieur, je vais avoir des petites choses comme ça. Alors ça, c'est une particularité d'une famille botanique, qui n'est pas les ombellifères, qui est la famille des astéracées. Le pissenlit, la marguerite, et à l'autre bout de la famille, juste au-dessus de celle-ci, les Delveis. Mais il faudrait s'expliquer là-dessus encore. Il y a une bonne raison. Hein. Donc ça, en fait, quand vous êtes avec une marguerite et que vous faites « Je t'aime un peu, beaucoup », ce n'est pas des pétales que vous enlevez, c'est des fleurs. Parce qu'au bas de ça, au bas de ce pétale, on va avoir un petit tube dans lequel il y a une étamine. Et ça, c'est une fleur. Au centre, c'est des fleurs. Ça, c'est des fleurs qu'on appelle des ligules, ça, c'est des fleurs qu'on appelle les tubules, qui ont des spécialités, ça pour que les objets volants atterrissent, les autres pour qu'on butine et que ça se reproduise. Donc tout ça, c'est des dizaines de petites fleurs. D'accord ? Donc un parasol fait de fleurs pour la protection. Donc les achillées sont des élixirs floraux de protection.
Est-ce qu'il y a un élixir de bouleau, avec le bouleau ?
Un élixir de bouleau ?
De bouleau.
Oui, bien sûr, ça existe. Et l'élixir de bouleau existe. Le bouleau est un arbre qui est la symbolique du cœur de l'été. qui est lié à la Saint-Jean d'été. Alors autant le millepertuis, c'est la fleur liée à la Saint-Jean d'été, autant le bouleau, c'est l'arbre lié à la Saint-Jean d'été. C'est d'ailleurs un des arbres qui laisse passer avec le noyer le plus de lumière. Dans le sud, c'est un petit peu les eucalyptus qui font ça. Mais chez nous, c'est le bouleau. Il a une écorce blanche. Il amène de la lumière à l'intérieur et il permet aussi que la lumière ressorte. Pourquoi ? Parce que on consomme de la sève de bouleau. Et sa sève, elle est dorée. Quand on regarde la couleur de la sève de bouleau, c'est de l'or, hein, c'est de l'or en paillettes. Donc c'est aussi une capacité d'intégrer le soleil et de restituer du soleil. Mais à un autre niveau, à un niveau de, j'allais dire, de la reconnaissance de l'être profond que l'on est. De la conscience de ce qu'on vaut et de ce qu'on veut. Oui, bien sûr. Bien sûr. Dans les élixirs composés, il y a un composé qui s'appelle protection, qui contient de l'achillée rose, de l'achillée blanc et de l'achillée jaune. Le rose et le blanc sont millefolium, c'est celui que j'ai dessiné. Et l'achillée jaune, il est haut comme ça. On le trouve souvent chez les fleuristes en bouquet sec. Et c'est un achillée qui s'appelle Philipendulina, un nom qui sonne comme une pendule. Philippe Pendulina. C'est rigolo, quand même. En lien avec le cheval, peut-être, je ne sais pas. Non, ça ne s'écrit pas avec un H. Mais bon. Les trois ensemble, c'est un élixir qui est très, très intéressant, entre autres, de préparation en chimiothérapie. Entre autres, préparation de radiothérapie. Entre autres, grande exposition au rayon. Personne qui travaille régulièrement devant un ordinateur avec un téléphone portable à longueur de journée, elle peut bénéficier, j'allais dire, par petites touches sur des durées de 5-6 jours d'une aide de l'élixir floral d'Achillée, du composé.
Allô,
des Achillées. Oui.
Bonsoir. Je voulais savoir justement par rapport aux ondes. Pour préserver les élixirs, on dit que c'est très mauvais d'être entouré d'ondes, mais aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un endroit où il n'y a pas d'ondes, en fait, que ce soit la Wi-Fi, les téléphones.
Alors, en général, le préparateur d'élixirs, il a plus que ça comme critère. Donc, c'est clair qu'on évite les lieux où il y a des ondes. C'est clair que le préparateur, il ne va pas sur le lieu avec son téléphone portable ni avec son ordinateur. Ça paraît tout simple, mais c'est inévitable. C'est clair aussi que l'état intérieur du préparateur est important quand on prépare l'élixir mère. C'est-à-dire que si on vient sur un site et puis qu'on s'est fait 300 bornes d'autoroute plein parce que c'est les vacances et qu'on est comme ça au volant, c'est pas la peine de faire un élixir. Ça sert à rien. Donc il y a aussi l'état intérieur du préparateur. Ça, c'est le premier point. Dans quel état il est ? Quel vide il est capable de faire ? Quelle connexion il est capable d'avoir à la plante ? Il n'entre pas sur le terrain n'importe comment, il ne se présente pas à la plante n'importe comment, il entre en respect et généralement il connaît son terrain parce que c'est souvent un terrain sur lequel il revient, donc il a une bonne idée de la qualité végétative de la plante. S'il arrive au bon moment, à la bonne floraison, en général on suit nos terrains. Quand on a un élixir à faire, on y va deux fois avant de faire l'élixir, on va vérifier deux fois l'état des fleurs. Ensuite, il y a ce qui est important, le matériel utilisé. Le matériel utilisé, c'est du verre transparent toujours. On ne filtre pas avec un filtre en plastique. On n'utilise que du verre. Autre chose importante, c'est l'eau. L'eau qui est choisie pour faire les élixirs, en tous les cas chez Deva, c'est une eau qui a une très haute résistivité. Et ça, c'est très important. L'eau du Mont-Roucous et l'eau de la Rosée de la Reine sont les deux eaux en France à avoir la plus haute résistivité. Indépendamment d'un pH équilibré, d'un RH2 correct, le critère de résistivité est important. Ensuite, la qualité du cognac est importante. Chez Deva, on travaille avec un vendeur de cognac qui est sur le salon, qui s'appelle Brard Blanchard. Ça fait 30 ans qu'on bosse avec lui, parce qu'on sait comment il fait son cognac. Ensuite, c'est comment on s'adresse à la plante quand on a mis notre bol d'eau au sol. Comment on s'adresse à la plante pour lui dire, voilà, je vais t'agresser, je vais te prendre. je vais te mettre sur l'eau pour faire un remède. Mais si on lui explique ce pourquoi on va faire le remède, je sais que pour certains d'entre vous, ça va être étonnant, mais il y a des fleurs, on va aller les chercher, elles vont tomber toutes seules dans le bol. Il y en a, il va falloir les arracher de la tige. Celles-là, elles n'étaient pas mûres, elles n'étaient pas à maturité pour faire le remède. Donc avec l'expérience, ça, on le sait, on le voit, on le sent. Donc il y a plein de critères qui rentrent en compte. Ensuite, le temps de solarisation, il est de l'ordre de 3 heures. On filtre dans un papier qui n'est pas blanchi au chlore. C'est tout bête, mais c'est important. Et quand on filtre, on met dans les bouteilles dans lesquelles le cognac est déjà présent. C'est-à-dire qu'il y a 50% de cognac dans la bouteille. On remplit avec l'infusion solaire. Et quand ça est fait, et seulement quand la bouteille est remplie, alors le cognac, on a pris la délicatesse de tourner la bouteille sur elle-même pour imbiber toutes les parois du verre. Ça, c'est important. Parce que le verre est un liquide solide. Le verre garde la mémoire de tout ce qu'on a mis dedans. C'est pour ça que quand on travaille les élixirs floraux, on ne travaille qu'avec des récipients neufs qui n'ont jamais servi à autre chose. De façon à ce qu'il n'y ait pas une mémoire précédente à l'intérieur. Et puis quand ce flacon est fait, on ne se contente pas de dire « je le range ». Non, non. On a un système de dynamisation qui est un système de dynamisation lente. Pas du tout la succussion frappée de l'homéopathie. Pas du tout. Un système de dynamisation qui est en lemniscate et qui est très lent et qui se compte sur un cycle de 21 ou de 49 suivant la plante. Si la plante a une croissance rapide, c'est 21 jours. Si la plante a une croissance lente, c'est 49 jours. Donc c'est 49 lemniscate. Donc le protocole pour fabriquer un élixir, c'est pas si simple que ça. Bien sûr, il y a les ondes, mais il y aurait la pollution. Je pense à un exemple. Vous êtes de cette région, vous connaissez la région. Vous avez peut-être entendu parler qu'autour d'Albertville, il y a eu une station, comment on appelle ça, un four pour brûler les déchets, où on avait volontairement enlevé les filtres pour pouvoir avoir un meilleur tirage et brûler plus de choses. Sauf que toutes les dioxines sont parties et sont allées dans la nature. Donc nous sommes obligés au niveau du laboratoire d'Eva, mais d'autres, sans doute, le font aussi, de mesurer la toxicité. Le site, on faisait le scléranthus, qui était dans les hauteurs d'Albertville, dans les montagnes pas très loin d'Albertville. Ce site est inexploitable aujourd'hui parce que la pollution est trop grande. Donc on ne peut plus utiliser ce site. Donc il n'y a pas que les pollutions magnétiques. Une année, on a fait un élixir de Brunel dans le Vercors. Il a été testé par Ecocer qui nous a dit « il y a du pesticide ». Alors quand on connaît le coin, c'est un coin où pour aller foutre du pesticide là, il faut être un peu frappatoqué. Mais bon, explication, il a fallu rechercher quel était l'avion qui avait largué des pesticides là pour finir de vidanger son fond. Donc on regarde tout. Et on est, de toute façon, mobilisé sur tout. Les pesticides, on ne peut pas les empêcher, mais on peut les analyser. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut analyser. Les champs magnétiques, il est bien évident qu'on ne va pas aller poser un bol sous une ligne à haute tension. J'ai entendu des gens dire, d'ailleurs, et je me porte en faux contre ça, et je vous invite à vérifier que ce que je dis est vrai, j'ai entendu des gens dire « Oh, mais le laboratoire d'Eva, il y a une ligne à haute tension qui passe dessus. C'est normal que vos produits n'aillent pas. » Alors, on est dans un parc régional. Pour qu'il y ait une ligne à haute tension, il faut déjà la chercher. Mais je vous invite à venir voir le laboratoire. Il se visite. Il faut juste vous inscrire. Il se visite le jeudi pendant les vacances. Parce qu'il n'y a pas trop de monde au labo et qu'on peut vous le faire visiter. Donc venez voir où c'est, venez voir comment c'est, venez voir comment on travaille. Hein. On est transparent. Il n'y a aucun souci pour ça. Mais c'est vrai qu'une des pollutions les plus compliquées à vérifier, c'est la pollution, non pas magnétique, ça on peut l'avoir au pendule, c'est la pollution des ondes. Alors on peut la tester au pendule, ce qui nous arrive dans certains sites où on a des doutes. On peut la tester soit à l'antenne de l'écharpe, soit au pendule. Hein.
Je parlais plus de la conservation, enfin, c'est-à-dire quand on en a, nous, en notre, notre possession,
ouais.
La difficulté pour le coup qu'on a de la conserver, de l'utiliser sans justement avoir...
Alors, il faut la stocker loin d'un téléphone, loin d'un écran. Ça, c'est le premier point. Vous pouvez conserver un élixir fermé dans son flacon très longtemps. Parce que la matière a été faite de cette façon qu'elle a une durée de vie qui est longue, plus longue que la date qu'on nous impose, nous, sur les flacons. Nous, on a une date imposée. Mais vous pouvez conserver au-delà de cette date imposée. La principale des choses qu'il faut faire, c'est 1. À l'abri de la lumière. 2. Dans un autre placard que celui où vous conservez vos huiles essentielles. Ça, c'est une clé. C'est-à-dire, élixir floraux, huile essentielle, ce n'est pas le même mode vibratoire. Ça n'agit pas au même niveau, ça ne se conserve pas dans le même endroit. Au niveau de l'élixir floral, on travaille sur le message de la plante. Au niveau de l'aromathérapie, de l'huile essentielle, on travaille sur la quantité thérapeutique. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes modes vibratoires. Et puis le deuxième aspect dans l'huile essentielle, c'est que certaines huiles essentielles émanent, suivant les bouchons qu'elles ont, et leurs émanations peuvent être corrosives pour la tétine qui est au-dessus du flacon d'élixir, qui vous permet de compter les gouttes. Cette tétine, elle est dans un caoutchouc qui, lui, est hypersensible aux éléments corrosifs. Donc, loin de tout produit ménager, bien évidemment, et loin des huiles essentielles. Là, dans ces qualités de consommation-là, dans un placard à l'abri de la lumière, vous avez quand même des délais de conservation qui sont assez corrects, même flacon ouvert.
Je me pose la question, quel est le rôle du cognac? C'est un conservateur, c'est quoi?
Alors, le cognac, il a plusieurs rôles. L'eau, c'est le principe d'extraction. C'est-à-dire qu'on est dans le travail des motos, par exemple, si vous connaissez, ou on pourrait parler du travail de Marc Henry, qui est un professeur qui travaille sur l'eau à la faculté de Strasbourg. Je vous conseille d'aller voir les vidéos de Marc Henry parce que c'est quelque chose de spectaculaire pour vous expliquer l'importance de l'eau. Là, on extrait le principe. Après, il faut conserver ça. Donc, on a une solution, c'est mettre de l'alcool parce qu'en montant le degré d'alcool, on a de la conservation. Mais on pourrait choisir n'importe quoi. Pourquoi on ne choisit pas de l'alcool de patate? À votre avis? Il y a une raison, il y a des raisons. Il est de moins bonne qualité, mais il est beaucoup moins cher, ça serait vachement plus rentable. Ça serait facile. Pourquoi on ne met pas de l'alcool à 90? Ça serait vachement facile. Parce que le cognac a cette infinie qualité de venir du raisin et d'être un cognac jeune qui n'est pas passé en fût de foudre, de chêne. Donc il a juste le message du raisin. Il n'a pas le message du raisin plus du chêne. Comme c'est un fruit à grappe, comme la groseille, comme le cassis, c'est un fruit qui est sous la signature de Mercure, le transmetteur du message. Comme il est de couleur dorée, il transmet un message pour qu'il y ait une conscience avec ce message. Donc le cognac n'est pas tout à fait au hasard. Il a une fonction de conservation, mais un peu plus que ça quand même. Alors c'est très intéressant parce qu'on a fait des cristallisations sensibles. Vous savez ce que c'est des cristallisations sensibles? Vous avez entendu parler? Alors quand on fait une cristallisation sensible, on présente un liquide à des cristaux de cuivre qui s'orientent de différentes façons et font une forme. Généralement on fait ça dans une petite coupelle ronde et on a des formes qui sont en général très radiantes comme ça. Très serré. Eh bien, on s'est rendu compte que on a fait des cristallisations de l'eau macérée, filtrée, juste l'eau. Après, on a fait une cristallisation de l'eau plus le cognac. C'est-à-dire au moment où on a mis l'eau dans le flacon, donc la macération solaire dans le flacon, on a prélevé pour faire une analyse là. Et ensuite, on a fait la même chose, flacon dynamisé. Puis on a refait une cristallisation et ensuite on a refait une cristallisation au bout de 6 mois, puis au bout d'un an, pour voir comment ça bougeait dans le temps. C'est très impressionnant, c'est un travail de recherche qu'on fait régulièrement sur les élixirs au laboratoire, parce que ça nous donne une bonne idée de la vitalité qu'il y a dans l'élixir qu'on propose. Et c'est très intéressant parce qu'on a l'impression que quand on rajoute le cognac, le maillage se resserre. C'est comme s'il y avait une force supplémentaire qui était apportée. Je ne peux pas bien l'expliquer autrement, mais si vous pouvez voir des photos, alors on n'en a pas sur le stand là, mais on a eu une parution où il y avait des photos comme ça. On a un maillage qui devient très très serré et donc qui est aussi dans la lecture des cristallisations qui montre une plus grande activité. une plus grande effectivité. Alors je vous libère, moi je vais retourner sur mon stand. Merci beaucoup.
Donc merci.